Les questions du mercredi. Une émission de France Inter et du journal Le Monde, avec Dailymotion, tous les mercredis à 19h20. Jean-François Aquili.
Deux invités ce mercredi. Anne Hidalgo pour le PS face à Chantal Jouanneau pour l'UMP. Toutes les deux sont têtes de liste à Paris pour les élections régionales en Île-de-France, en pleine polémique autour d'Alice Soumaret. Rendez-vous avec Chantal Jouanneau et Anne Hidalgo dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, mercredi à 19h20. France Inter.
La différence.
15h04, c'est l'heure de retrouver là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Oh le pompeux cornichon, oh le pompeux. Eh bien, sachez, monsieur, que la culture du moi provoque la moiteur du cul. Tenez-vous-le pour dit.
Oui, bonjour Daniel, bonjour les AMG. Et si l'on essayait la médiocrité, titrais-tu en 2009 une série d'émissions relatives à l'éducation. Et si l'on essayait la médiocrité? La suite est en train de s'écrire. Les cartes scolaires départementales sont en préparation. Dans les Alpes d'Haute-Provence, pas moins de 20 classes sont menacées de fermeture, touchant près de 12% des écoles du département. Et si l'on essayait la médiocrité? Ah là là, réveillons-nous, le service public d'éducation est menacé. C'était Patrick, un AMG représentant de parents d'élèves à Digne-les-Bains.
Bonjour Daniel, bonjour aux AMG. Voilà, je vous laisse un message. J'ai reçu une convocation au commissariat quand je m'y suis rendu. En fait, c'était pour des injures sur le site de YouTube. Et qui a été insulté? C'était le fameux gars qui avait été filmé aux universités de l'UMP avec Brice Hortefeux, quand Brice Hortefeux disait que quand il y en avait un seul arabe, ça allait, c'est quand il y en avait plusieurs que ça allait pas. Le procureur de Dax, j'habite les Bouches-du-Rhône, je précise, le procureur de Dax a ouvert une enquête et a fait convoquer tous les internautes qui ont laissé des commentaires sur YouTube au sujet de cette vidéo. Je me demande juste une seule chose. Est-ce que vraiment, ils ont rien d'autre à faire, ces gens-là? Est-ce que Brice Hortefeux et toute sa clique-là, ils n'ont pas d'autre chose à faire? Il y a plein de pédophiles qui circulent sur le net, il y a plein de choses. Non, mais non. C'est ça, la France, liberté. Le net, c'est la liberté. Franchement. Je m'appelle Farid. Et de toute façon, un jour ou l'autre, on sera vraiment fliqué, mais jusqu'au slip, on sera fliqué. Merci. Allez, ciao.
Daniel, c'est Christian Marc de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, de Paris 15e, tout ça. Juste pour te dire que les copains de Paris 7 ont trouvé un très très bon moyen contre la politique insane de Madame Pécresse et de Monsieur Châtel, qui consisterait tout simplement, tu vas rigoler, à bloquer les jurys du bac, puisque malheureusement, on a besoin d'un universitaire pour les jurys du bac. Donc voilà, c'est parti aujourd'hui. Il s'agirait de bloquer les jurys du bac et de semer un effroi dans les familles françaises que tu peux même pas imaginer. Bon, salut Daniel, bon courage et puis à bientôt. Ciao.
Salut Daniel, c'est Sylvain. Je t'appelle parce que l'émission qui a été diffusée hier et aujourd'hui correspond assez à mon histoire. Voilà, jeune agriculteur, pas d'ici, etc., etc. Bon, moi, un petit peu moins dramatique et tout. Mais il se trouve que l'analyse que je peux faire sur la situation, voilà, il y a effectivement du Zola, et je le dis souvent, mais il y a aussi là au milieu, on va dire, une conjonction des politiques agricoles. Hein, c'est-à-dire que la terre, le rapport à la terre est devenu pas complètement celui de Zola, mais celui de l'argent et des grosses structures agricoles et des primes. Voilà. C'est que l'agriculture vivrière ou des petites exploitations qui aujourd'hui pourraient faire vivre plein de monde, quasi interdites, eh bien plus tard, bye bye.
Oui, bonjour. Ben, Florence Aubenas, dans son livre formidable d'ailleurs, n'a pas dû s'adresser au bon Pôle emploi. Parce que, regardez Christine Albanel, elle a trouvé du travail à France Télécom. Voilà, elle a cherché, elle est, quand on cherche, on trouve, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Au revoir, c'est Jacqueline Imbert.
Alors voilà, je sens que la France est profondément troublée, voire même angoissée. Alors je voudrais, par des paroles apaisantes, soigner cette angoisse énorme que la France Alors d'abord, quand on mange de la viande halal, on ne devient pas musulman. Il faut pas avoir de troubles de l'identité à ce point. Manger de la viande halal n'est pas réservé aux musulmans. Si par exemple vous allez voyager en Tunisie, tous les jours vous mangerez de la viande halal. Donc n'ayez aucune crainte, ça ne vous transformera pas en musulman. Vous pourrez rester chrétien, athée, bouddhiste, témoin de Jéhovah, scientologue. Vous resterez ce que vous êtes, agnostique, enfin bon, voilà. Autre chose, quand on parle de discrimination, c'est par exemple si un restaurant marque, les gens qui ne sont pas musulmans n'ont pas le droit de rentrer manger ici. Évidemment, ce n'est pas le cas. La viande est certifiée halal, mais les non-musulmans ont tout à fait le droit de rentrer dans ce restaurant. Donc je trouve le maire de Roubaix très très angoissé, au bord du délire. Il perd le contrôle de sa pensée en portant plainte pour discrimination. Il n'y a pas de discrimination. Par ailleurs, au niveau des fournisseurs, un commerçant est libre de choisir ses fournisseurs. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes tous guéris de cette angoisse terrible qui vous frappait.
Merci pour ces messages et ce dernier message surtout. On espère et on forme des vœux à la base, si j'y suis, pour que le discrédit qui frappe Bernard-Henri Lévy ne va pas l'empêcher de continuer sa croisade, son djihad contre l'islamo-fascisme en France, car vous l'avez vu, cet auditeur en parle, l'invasion continue chaque jour davantage. Ça a été les mosquées, ça a été le voile, ça a été la burqa, et maintenant ce sont les hamburgers. Je veux parler du fast-food halal de Roubaix, le restaurant Quick qui ne sert plus que des hamburgers halal. Chaque jour, notre civilisation décline sans combattre. Vous avez vu le journaliste Éric Zemmour qui voit s'installer partout des régions complètement halalisées, dit-il, et puis son collègue Christophe Barbier qui n'est jamais décevant. Alors rappelons les faits, sur 362 restaurants, la direction des fast-food Quick fait un essai sur 8 de ces fast-food à travers la France. Les hamburgers sont halal, c'est-à-dire que la viande est préparée selon des préceptes religieux musulmans, tout comme la nourriture cachère répond aux préceptes du judaïsme. Quick a mis ses nouveaux produits en place le 27 novembre. Or, c'est maintenant, à quelques semaines, quelques jours des élections régionales du 14 mars, que le maire PS de Roubaix s'insurge soudain contre ce fast-food et dépose plainte pour discrimination. Jeudi dernier, en effet, le tribunal de Lille a été saisi d'une plainte pour discrimination. Alors qu'il y a déjà des centaines de restaurants halal en France, et pour Paris, vous pouvez voir le site parishalal.com qui vous donne toutes les adresses de boucheries, d'épiceries, de restaurants halal. Vous avez des sushis halal, des pizzas halal, des chinois halal, et ça ne pose pas de problème particulier, tout comme pour la nourriture cachère. Là aussi, vous avez quantité de boucheries, de produits, de restaurants cachères par centaines en France. Vous pouvez aller sur le net et vous pourrez satisfaire votre curiosité et votre envie sans aucun problème. Par exemple, au 240 boulevard Voltaire à Paris, dans le 11e arrondissement, vous avez un Franprix entièrement cachère qui est fermé le samedi et qui ne pose pas de problème particulier, aucune protestation, aucun dépôt de plainte pour discrimination. Voilà des années d'ailleurs qu'un autre fast-food, Kentucky Fried Chicken, vend un poulet halal dans son menu, tout comme d'autres fast-food qui visent une clientèle de gens pas riches. Et les Français musulmans sont nombreux parmi les gens pas riches. Et le maire PS de Roubaix, monsieur René Van Dirndonck, déclare qu'il n'est pas hostile aux produits halal, mais à condition qu'il y ait diversité. Qu'il y ait de la diversité, qu'il n'y ait pas que ce produit-là, qu'il y ait autre chose. Alors ça reviendrait à imposer qu'il y ait aussi de la viande dans un restaurant végétarien, ou que le resto chinois vende aussi du couscous, ou que le couscous vende aussi du chinois. On dira qu'il n'y a rien de religieux dans tout ça, mais qui s'insurge contre ces petits reposoirs qu'on voit dans les restaurants indiens ou chinois? Vous savez, dans les coins, il y a ces petits trucs avec des figures, des bâtons d'encens, des fruits, etc. Ça ne pose aucune espèce de problème. Et puis, sans parler du poisson du vendredi dans la plupart des cantines de France qui songent à déposer plainte pour discrimination. Alors, comme d'habitude, nos furieux défenseurs de la vraie France contre ce nouveau totalitarisme brandissent la laïcité, la liberté des femmes, les valeurs de la République. Les valeurs de la République, l'identité nationale, la culture française, ils n'étaient pas très nombreux à s'en indigner quand ces restaurants, cette restauration rapide, ces fast-food se sont installés en France, les McDo, les KFC et autres quick et toute cette malbouffe à l'américaine, ça ne posait pas de problème. Voilà le vrai nauséabond, puisqu'on a parlé de nauséabond au sujet des critiques faites à Bernard-Henri Lévy. Eh bien, il est là aujourd'hui, ça pue le racisme de race, le racisme de classe et même un certain racisme envers les jeunes. Il y a aussi là-dedans un racisme générationnel qui s'ignore. Voilà. Tout ça n'a rien à voir avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se balader à la Défense, à Paris, près de Paris. Ça n'est pas Paris d'ailleurs, c'est d'autres municipalités, d'autres communes comme Neuilly, comme Courbevoie et comme Nanterre. L'EHPAD, vous vous souvenez, l'EHPAD? Oui, quand on dit EHPAD, on pense tout de suite à Jean Sarkozy. Et Jean Sarkozy a été plus important dans cette affaire que l'EHPAD. Voilà pourquoi, avec Pascal Pascariello, on a voulu savoir ce qu'est cet EHPAD, comment ça fonctionne et où en sommes-nous aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Christine de la Creuse. Je viens de finir le livre de Malalai Joya, Au nom de mon peuple. C'est édifiant. Et en finissant, je pensais aux familles de tous les soldats morts pour soutenir une bande de pourris, soutenus par les Américains et les Français et les Allemands, tout simplement parce que le sous-sol d'Afghanistan est très riche. Donc c'est édifiant. Et si vous voulez de plus amples renseignements, d'abord lisez le livre, je répète, Au nom de mon peuple, de Malalai Joya, ou allez sur le site www.rawa.org. Bonne journée.
Salut les AMG, c'est pour signaler à qui veut bien l'entendre que le repère des AMG de Briouze, dans l'Orne, devrait se tenir le mercredi 24, la Saint-Modeste, c'est un signe, au bar tabac Le Brazza, 22 rue du Docteur Petit, à Briouze, vers 17-18h. Cherchez une table où l'on lise le canard. À bientôt. Salut à tous, c'était Claude.
Ouais, salut, c'est Hervé à Brest. Je comprends pas un truc là, on parle de pénurie de carburant, en tout genre, parce que Total est en grève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Total a une position dominante, au moins en France, concernant la fourniture de ce genre de produits. Il y a une loi antitrust, non? Je croyais que c'était interdit d'avoir une position dominante. Bon, voilà, je me pose simplement la question. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.
Salut Daniel. Alors voilà, le dernier numéro du plan B est paru il n'y a pas longtemps, et à mon avis, assez impartial, c'est un excellent numéro, avec plein d'idées pour détruire la planète. Mais dans les médias, bien entendu, personne n'en parle. Et c'est d'ailleurs très ingrat, parce que le plan B, lui, cite beaucoup les autres médias. Donc c'est pour ça que je t'appelle, pour te demander d'en informer tes auditeurs, d'autant que dans ce numéro, un journaliste de France Inter est à l'honneur. Si tu pouvais nous faire un petit retour d'ascenseur confraternel, ce serait pas de refus. S'il te plaît, Daniel, ne passe pas ce message à l'antenne, sinon on va nous accuser de connivence. En tout cas, merci et bon travail à ton équipe. Et salut.
Alors la Défense, c'est donc près de 3 millions de mètres carrés de bureaux, 150 000 emplois, 10 120 logements, dont 36% de logements sociaux, 2 600 chambres d'hôtel, 1 500 entreprises, dont 14 des 20 premières nationales, 14 des 20 premières nationales françaises et 15 des 50 premières mondiales.
Aussi curieux que ça puisse paraître, puisque c'est très, très minéral, je trouve qu'il y a un contact avec la nature.
Alors là, c'est le bureau du directeur,
oui,
qui domine toute la Défense, on voit l'Arche de la Défense.
Avec ce que nous appelons, nous, la Tour Areva, cette magnifique tour noire qui domine la Défense, les tours Total, la tour de GDF Suez, SFR, Ernst & Young, et puis cette magnifique tour d'EDF. Et je sais que moi, je suis très, très, très amoureuse de cet espace, parce que je trouve que c'est le seul endroit dans Paris où vous avez ce contact avec le ciel, comme ça, qui vraiment déborde.
Mon bureau est une bulle suspendue au 12e étage d'une tour de la Défense.
Skyline.
Oui, c'est ce qu'on appelle ça, le skyline. Effectivement, c'est donc tout le paysage, tout le, comment dirais-je, le toit de la Défense. Enfin, je sais pas comment on peut dire. J'ai pas la traduction. Ah, la ligne d'horizon, oui. La
ligne d'horizon.
C'est ça.
Cette salle de marché au 27e étage, qui est un étage double hauteur, dominant Paris. Voilà. Effectivement, on s'est dit qu'une salle de marché devait avoir une vue acceptable, une vue même magnifique. En venant, on voit la tour, on rentre dans la tour, on la touche. Dans
on
une
la
tour
touche.
De la Défense, vous la voyez, vous la touchez, voilà. Hein, bon.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base où j'y suis, avec Pascal Pascariello. L'EHPAD, c'est épatant.
Flight number 2, arriving from...
Mais c'est impressionnant, on arrive, on voit toutes les tours monter. C'est le plus grand quartier piétonnier de France. Il y a 40 hectares de dalles, et sinon le quartier lui-même fait 160 hectares.
Pourquoi la Défense? Pourquoi est-ce que Sarkozy s'y est arrêté, intéressé? Là, vous avez une tour en construction, avec un très beau panneau Bouygues en haut. Or, Nicolas Sarkozy est un ami très intime de l'héritier Bouygues, qui dirige maintenant Martin. Ça peut aussi expliquer un certain intérêt pour la Défense.
Michel, vous voudriez dire qu'à travers l'EHPAD, ce sera un moyen également d'entretenir des amitiés?
Exactement.
Les droits à construire se chiffrent en milliards d'euros. La Défense, c'est 3 millions de mètres carrés de bureaux. C'est les 15 premières entreprises françaises, enfin les 15 du CAC 40. La Défense, c'est un quartier d'affaires haut de gamme. On n'est pas du tout dans l'univers des PME, on est dans les sièges sociaux de Total, de la Société Générale, de Dexia. C'est la cour des grands au niveau du monde des affaires et de la finance. C'est pourquoi on ne peut pas plaisanter, on ne peut pas mettre n'importe qui. Le problème de la ville, le problème de l'urbanisme, c'est un problème de rapport de force. Donc en 1958, on n'est quand même pas loin de la libération, on est dans les 30 glorieuses, le Front populaire n'est pas loin, et les travailleurs ont des avantages tout à fait intéressants, dont justement les logements sociaux. Et donc au départ, quand la Défense se construit, bien évidemment, on en a la trace aujourd'hui, puisque juste en face de la tour Opus de l'EHPAD, il y a un groupe HLM qui est là, absolument au cœur de la Défense. Alors, on sait qu'il est menacé, mais il est là, et donc il rappelle justement que l'urbanisme, c'est l'objectivation de rapports de forces sociaux, politiques, économiques, et qu'aujourd'hui, le fait que le CAC 40 est au cœur du système politique, hein, la nuit du Fouquet's, dès le départ, messieurs Bolloré, Lagardère et autres, Arnaud, étaient de la fête. Le CAC 40 était présent. Du coup, la Défense, on aura tendance, je dirais, à démolir les logements sociaux pour y construire des tours. C'est le cas de l'opération des Damiers. Donc on est face à une classe sociale qui est en plus mobilisée. Elle est mobilisée pour ses intérêts. Et ici, on est vraiment sur un champ de bataille.
Mais un champ de bataille, de quelle bataille entre qui et qui? Il semble bien qu'il s'agisse d'un seul vainqueur et que le vaincu est depuis longtemps recroquevillé dans son quartier, dans sa défaite. Ce qu'on entend là, ceux qui viennent de parler ainsi, vous les avez peut-être reconnus, c'est Monique et Michel Pinson-Charlot. Ils sont connus aujourd'hui, ces deux sociologues, pour leur travail tout à fait singulier dans la sociologie sur les beaux quartiers, sur les fortunes, sur la haute bourgeoisie, sur la noblesse. Et ils ont travaillé notamment, évidemment, donc ils ont travaillé sur Neuilly. Et on y est, nous y voilà. La défense, c'est là. C'est là que nos chercheurs voient cette objectivation des rapports sociaux que la nuit du Fouquet annonçait pour ce qui concerne la période récente. Ils disent, le président de la République a introduit le monde des affaires, des médias et du showbiz, les réseaux Lagardère ou Bolloré, au cœur du système politique. C'est ça la rupture du sarkozysme. Le chef de l'État est le porte-parole de l'aristocratie de l'argent. Jusque-là, on avait une sorte de social-démocratie capitaliste qui caractérisait le pays, ce genre de choses d'affaires, les choses des affaires, ça se faisait d'une manière discrète, feutrée, opaque, un petit peu dissimulée. Et maintenant, c'est un libéralisme débridé, un capitalisme décomplexé qui s'expose et qui s'exprime sans aucun détour au grand jour et qui se manifeste là dans cette dans ce lieu plus que symbolique qu'est la défense. La défense, on le sait, est gérée par l'EHPAD, c'est-à-dire l'établissement public pour l'aménagement de la défense. J'ai souligné public parce que on va voir dans cette émission aujourd'hui et demain ce que ça veut dire que cet EHPAD. Qu'est-ce que ça veut dire un établissement public? Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Ou bien vous êtes initié et vous êtes peu nombreux, heureux privilégiés, ou bien vous faites partie de cette masse de Françaises et de Français qui disent bon bah là-bas il y a des tours, c'est les tours de la défense qu'on aperçoit, sans comprendre bien les enjeux à la fois de pouvoir et les enjeux d'argent. Enjeu de pouvoir, c'est énorme. Enjeu d'argent, c'est énorme également. Et ça nous intéresse au-delà de l'épisode du népotisme du fils du président de la République, Jean Sarkozy, qui était promis et promu président de l'EHPAD, qui a soulevé, vous vous en souvenez, le tollé, non à l'échelle plus que nationale, mais le monde entier a rigolé de cet acte de népotisme, de monarchie républicaine. Il y a l'EHPAD. Et comment ça fonctionne, comment ça fonctionne actuellement, comment ça va fonctionner, c'est ça qui nous a intéressés avec Pascal Pascariello. C'est là-bas si j'y suis jusqu'à 16h. L'EHPAD, c'est épatant.
Escalator en ascenseur, on court sans faire battre son cœur. Une nouvelle journée commence à la défense. Des flots d'humains vont s'embarquer dans des tours de verre et d'acier. Nous l'on croit faire tourner la France à la défense. Directeur et sous-directeur, jolie secrétaire en tailleur, t'as la gueule de ta compétence à la défense. Et de réunion en dossier, et de rapport en comité, on fout pas grand chose en substance à la défense. C'est pas l'atelier, pas la mine, c'est pas le chantier, pas l'usine. Alors on se dit qu'on a de la chance à la défense. C'est juste le quotidien sans faille de la moderne chair à travail. Licencié soi qui mal y pense à la défense.
La Défense fête ses 30 ans. Créé en 58, l'EHPAD, l'établissement public d'aménagement de la Défense, a mené à bien sa mission en réalisant un nouveau quartier d'affaires cité en exemple partout dans le monde.
La 5, 1er octobre 1988.
Ce petit New York français a séduit les entreprises en un tour de main. Quant au public, désormais conquis, il visite le dimanche les bureaux de la Défense. Tout comme la 5e République, la Défense fête cette année ses 30 ans. Un beau parcours, les gouvernements sont passés, le projet est resté. Les bidonvilles de Nanterre ont fait place à l'imposant complexe de la Défense. Les tours ont poussé comme des champignons pour accueillir les plus importantes sociétés. Elf, Crédit Lyonnais, Fiat, la liste est longue, 650 noms.
Mais l'établissement public d'aménagement de la Défense, moi j'ai eu envie de m'y intéresser parce que là encore c'était très peu connu et c'est d'une importance capitale. Moi ce qui m'a frappé, d'ailleurs ça frappe quand on va se promener là-bas, c'est un territoire tout à fait différent de ce qu'on peut trouver partout en France ou même en Europe. C'est construit sur une dalle, donc déjà visuellement c'est très spécial, avec ces grands immeubles qui sont sièges des plus grandes entreprises de l'industrie française, c'est frappant. Mais en plus ça jouit d'un statut tout à fait particulier. Depuis 50 ans, c'est un établissement public d'aménagement, donc c'est l'État qui gère, c'est l'État qui décide. Et ça m'a vraiment fait l'impression d'un territoire offshore. Vous savez, on est sur cette dalle et on a un peu l'impression d'être ailleurs. Et effectivement, tout ce qui est les règles d'urbanisme, les règles de la démocratie locale, rien ne s'applique. C'est un endroit où l'État fait ce qu'il veut depuis 50 ans. La Défense, ça se dispense de toutes les règles d'urbanisme habituelles, ne serait-ce que par la hauteur des immeubles. On est clairement dans un endroit où c'est pas du tout les mêmes règles qui s'appliquent que dans les communes avoisinantes. C'est des tours qui font actuellement 200 mètres de haut. Et le projet lancé par Nicolas Sarkozy dès 2006 d'un renouveau de la Défense, là, prévoit de monter les hauteurs encore beaucoup plus et d'arriver à des hauteurs de 300 mètres qui sont l'équivalent de la Tour Eiffel à Paris. Donc, encore du jamais vu en France. Et le maire de la commune a un rôle formel, peut-être d'accorder le permis de construire, mais c'est pas lui qui édicte les règles, hein, c'est pas lui qui choisit.
C'est qui ?
Ben c'est cet établissement public d'aménagement de la Défense, donc l'État, donc un fonctionnaire du ministère de l'Équipement.
C'est un fonctionnaire du ministère de l'Équipement qui signe la décision, mais évidemment on a compris que les décisions sont déjà prises avant qu'il ne signe le projet. Celle qui parle, c'est Hélène Constanti, qui est auteur avec Pierre-Yves Lautrou de 9-2, le clan du président. C'est chez Fayard, c'est sorti en 2008. Et elle est très attentive, Hélène Constanti, à ce qui se passe dans ce coin de France qu'est la Défense. Alors on va avancer pas à pas et on va essayer de comprendre ce qui s'y passe et comment, quel est l'enjeu. Quel pouvoir procure cet endroit si convoité.
Moi, ce qui m'a frappé lorsque la rumeur a commencé à courir fin 2009 d'une arrivée de Jean Sarkozy à la présidence de l'EHPAD, franchement, je suis tombée des nues. Je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas oser prendre une décision pareille. Jean Sarkozy est un nouvel élu au Conseil Général des Hauts-de-Seine. Il a pris la présidence du groupe UMP, très bien, mais c'est encore un jeune homme qui est en cours d'études universitaires. Il n'a aucune légitimité pour occuper ce poste. Donc c'était absolument sidérant. Et effectivement, ça a suscité un tollé incroyable. Alors les gens ont beaucoup réagi sur le thème, il est là parce qu'il est le fils de son père, donc c'est du népotisme. Je pense qu'il y a bien plus que ça. Il y a derrière la volonté du pouvoir de garder le contrôle sur ce territoire qui est absolument stratégique en matière d'économie, pour l'économie française et puis pour le pouvoir local. On est quand même dans le fief de Nicolas Sarkozy. Les Hauts-de-Seine, c'est là qu'il a tout appris de la politique, c'est là qu'il a fait ses classes, c'est là qu'il a ses réseaux. Il a présidé le Conseil Général pendant longtemps. Donc c'est vraiment une façon aussi pour le président de garder le contrôle sur ce territoire.
Ça représente un intérêt financier, ce quartier de la Défense. Qu'est-ce que ça représente ?
Alors, c'est vrai que quand on parle d'intérêt financier, il y a un peu de fantasmes qui circulent. On pense des marchés, pots de vin, etc. Je pense que c'est beaucoup plus un lieu de pouvoir. Un lieu de pouvoir, un lieu d'argent. La Défense, donc, c'est le siège social des plus grandes entreprises françaises. Vous avez la Société Générale, bien sûr. Vous avez Areva, Total, les grandes compagnies d'assurance. Vous avez vraiment, c'est un lieu de pouvoir important. Donc la personne qui préside aux destinées de cet établissement a des contacts privilégiés avec les plus grands patrons français. Vous avez bien sûr des marchés publics qui sont énormes, qui sont passés lorsqu'il s'agit de construire une tour. J'ai pas les l'ordre d'idées en tête, mais c'est effectivement des marchés considérables. Mais voilà, je pense que c'est plus pour le pouvoir que ça procure que pour l'idée de on va détourner de l'argent, on va s'en mettre dans la poche.
L'information est arrivée jusqu'à Pékin. Entre indignation et ironie sur un beau cas de népotisme à la française, comme l'a d'ailleurs
13 octobre 2009.
Commenté la télévision chinoise. Jean Sarkozy, fils de 23 ans et en deuxième année de droit, s'apprête à monter dans le train à grande vitesse à destination d'une carrière politique de haut vol avec, après Neuilly, un deuxième arrêt à la Défense pour présider l'EHPAD, l'établissement public du quartier d'affaires de la périphérie de Paris et qui brasse des milliards. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, avait rétorqué Patrick Devedjian, atteint lui par la limite d'âge pour ce poste. Comprenons des âmes bien nées, et bien une prestigieuse hérédité, un sang, un privilège de naissance.
C'est rigolo, alors moi je suis toute excitée de faire ça.
Oui.
J'ai jamais fait.
Déjà là au deuxième étage, on a une belle vue.
Voir.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je peux montrer la vue à Madame de France Affaires? Alors là, c'est le bureau du directeur.
Oui.
Qui domine toute la Défense, on voit l'arche de la Défense.
Avec ce que nous appelons, nous, la tour Areva, cette magnifique tour noire qui domine la Défense, les tours Total, la tour de GDF Suez, SFR, Ernst & Young, et puis cette magnifique tour d'EDF. Et je sais que moi, je suis très, très, très amoureuse de cet espace, parce que je trouve que c'est le seul endroit dans Paris où vous avez ce contact avec le ciel, comme ça, qui vraiment déborde. Et puis, c'est comment dirais-je, c'est un lieu où les conditions sont extrêmes. Quand il y a du vent, il y a du vent, on se croirait à la pointe du Raz. Quand il fait froid, il fait encore plus froid. Quand ça gèle encore plus. Quand il fait chaud, il fait très chaud. Je trouve qu'il y a cette espèce de contact comme ça avec vraiment la nature, aussi curieux que ça puisse paraître, puisque c'est très, très minéral. Je trouve qu'il y a un contact avec la nature qui est assez spectaculaire. C'est un lieu spectaculaire, je ne peux pas dire autre chose. Il y a d'autres lieux comme ça dans le monde. Quand on est sur la baie de Sydney et qu'on regarde l'opéra, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas commun. Et j'ai la même impression ici. C'est vraiment un lieu spectaculaire.
Alors voilà la com de la Défense, ce lieu donc managé par l'EHPAD a une longue histoire avec des hauts et des bas, des crises financières, des rapports de la Cour des comptes pas très très convaincants, des comptes en infraction, et ça sentait même un petit peu la banqueroute. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, notre président de la République a décidé la course en avant. Il a lancé, en 2006, un plan de développement et de renouvellement très ambitieux et très prometteur pour les promoteurs. Entre 450 000 mètres carrés supplémentaires, entre 450 000 et 1 million de mètres carrés supplémentaires qui seront construits dans les 10 ans. C'est le plan Défense 2015. 12, 15 tours sont en rénovation ou en projet ou en construction, dont une au moins tour de plus, non, de 300 mètres, pas plus, évidemment, il faudrait pas offenser notre tour Eiffel. Alors, la crise financière vient de suspendre quelques-unes de ces ambitions, mais enfin, voilà le projet, la course en avant qui s'articule avec le projet du Grand Paris de notre pharaon Sarkozy.
Alors dites-moi, est-ce que, parce que je regardais, il y a un plan de renouveau, c'est-à-dire oui. on remet à neuf un peu tout en augmentant la surface.
Oui, parce que la défense, ben comme tout organisme vivant, parce que c'est un organisme vivant, a vieilli. Donc l'État, en 2007, a décidé de rénover son premier quartier d'affaires, puisqu'il a bâti un plan de renouveau qui consiste à la rénovation des tours. Toutes les tours se rénovent les unes après les autres. Nous en sommes très contents. Ça, c'est la première partie du plan de renouveau. La deuxième partie, c'est effectivement la construction de tours nouvelles à hauteur de 350 000 m². Donc, le paysage de la Défense va être extrêmement modifié.
Skyline.
Oui, on appelle ça le skyline, effectivement. C'est donc tout le paysage, tout le, comment dirais-je, le toit de la Défense. Enfin, je sais pas comment on peut dire. J'ai pas la traduction. Hein, la ligne d'horizon, oui.
La ligne d'horizon.
C'est ça, oui. C'est des tours de 200 mètres, 300 mètres pour celle de Foster, mais qui vont être belles réalisations architecturales.
Est-ce qu'il y a justement de véritables innovations qui sont faites?
Des innovations? Est-ce que je peux parler d'innovation? Non, c'est une ambition. C'est-à-dire qu'effectivement, plus personne ne souhaite avoir des plafonds bas, des bureaux à ce qu'on appelle en second jour.
C'est-à-dire
juste pour dire qu'il n'y a pas de fenêtre. Voilà, donc ça va être très qualitatif.
Une tour gigantesque de 300 mètres de haut est visible depuis la rue de Rivoli en plein centre de Paris. Ce serait une réalité en 2013.
France Info.
Le bâtiment d'acier et de verre coloré, composé de 4 cubes superposés, sera construit juste à côté de la Grande Arche dans le quartier de la Défense.
22 février 2010.
Un quartier d'affaires donc pour un édifice qui abritera des bureaux. Mais pas seulement, une petite révolution architecturale défendue par Jean Nouvel, le concepteur de cette tour.
Jusqu'à maintenant, les tours sont monofonctionnelles. Ici, il y a 4 fonctions dedans. Il y a le logement, il y a l'hôtel, il y a les bureaux et il y a les commerces. Pour une fois, on va voir la vie dans la tour.
Mixité des usages donc, mais pas vraiment de mixité sociale. Les appartements, minimum 200 mètres carrés, seront de très haut standing et destinés à une clientèle très fortunée. Coût du projet, au moins 600 millions d'euros. Le prix à payer pour voir s'élever à Paris un édifice symbole de la modernité.
Et tout ça est donc géré par l'EHPAD, établissement public pour l'aménagement de la Défense, créé donc en 1958 avec pour mission l'aménagement de la Défense pour le compte de l'État, une opération d'intérêt national, la vocation d'intérêt national. Comment fonctionne l'EHPAD depuis 1958 et comment l'EHPAD se maintient? Hélène Constanti.
C'est un système, cet système d'établissement public qui s'auto-entretient, c'est-à-dire que pour que cet établissement puisse exister, il doit générer de nouvelles constructions puisqu'il est financé par les droits à construire. Donc si la Défense s'arrête, l'établissement public périclite. Et le département, par la même occasion, je me rappelle très bien que Patrick Devedjian, qui venait de prendre la tête du Conseil général des Hauts-de-Seine, m'avait dit, si la Défense périclite, le département des Hauts-de-Seine fait faillite. C'est très important que tout ce système s'entretienne et qu'il y ait sans arrêt de nouvelles constructions, de la relance, des nouvelles tours qui se créent. Et dans quel but? C'est vrai qu'on peut se poser la question.
Le fait d'étendre la défense, de faire en sorte que les tours soient rénovées, soient rehaussées, que ça rapporte de l'argent à tout le monde, c'est-à-dire à la fois aux promoteurs, mais aussi à l'aménageur, c'est ça, parce qu'ils vendent du droit à construire et des volumes.
Et d'ailleurs, le plan de relance de Nicolas Sarkozy va servir directement les intérêts des grands propriétaires de la défense, qui sont organisés dans un lobby très discret mais très influent, qui s'appelle Aude, qui veut dire Association des utilisateurs de la défense. Tout ça paraît très modeste. On imagine que c'est l'association des gens qui prennent le RER tous les matins pour aller travailler, mais pas du tout. C'est uniquement les grands patrons et les grands propriétaires de la défense qui ont fait pression sur Nicolas Sarkozy avant qu'il soit élu président, lorsqu'il était encore président du Conseil général des Hauts-de-Seine et ministre de l'Intérieur, pour ce plan de relance qui, dès 2006, a notamment pour but de valoriser leurs biens, tout simplement. Est-ce que leur tour prenne de la valeur, est-ce que ça ne périclite pas et que ça devienne un immobilier plus attirant à la revente?
Donc là, on rentre, il y a un panneau devant le chantier de la tour. Ravi de vous accueillir sur le chantier CB31, Bouygues Bâtiment, rénovation privée. Toutes les envies naissent avec l'esprit libre.
Donc Jean-Marc Besson de Beacon Capital Partners. Beacon Capital Partners. Voilà, donc je suis le directeur général pour la France de la société d'investissement américaine qui a investi donc dans le programme de restructuration de la Tour First à la Défense. Alors la Tour First à la Défense, c'est l'ancienne tour UAP AXA qui était donc construite dans les années 70, 73, 74 et qui a été construite pour la compagnie d'assurance. Donc sur un plan de restructuration, de renouveau de la Défense qui a été lancé au cours des années 2004 et 2005, la Tour First a eu son permis de construire en 2006. C'est le plan lancé par Nicolas Sarkozy et puis avec la complicité, je dirais, de l'EHPAD et du maire de Courbevoie, du maire de Puteaux, pour redynamiser toute la défense, recréer des nouvelles structures, des nouvelles tours, donc de créer un grand défense, quelque part.
En venant, on voit la tour, on rentre dans la tour, on la touche. Dans
on
une
la
tour
touche.
À la défense, quand on dit la toucher, vous la voyez, vous la touchez presque, voilà. Hein. Bon, il faut avoir le
c'est
bras très très long pour la toucher, quand même.
Avoir un bras très 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 long.
Très très long, voilà. Donc c'est une tour qui est restructurée intégralement et on peut considérer que c'est une tour neuve. Et on a même rajouté 10 étages sur la tour d'origine existante, ce qui nous fait monter aujourd'hui à 231 mètres.
Dans ces cas-là, quand vous augmentez, que vous mettez des étages en plus, est-ce qu'on doit verser à l'établissement public ?
On a eu, dans le plan de renouveau de la Défense, il est prévu que cette partie-là, l'EHPAD nous donne une certaine flexibilité de marge de manœuvre.
Ce plan de rénovation, ce que vous m'expliquez, c'est que ça a permis de moins payer, c'est ça? Enfin, il y a eu des facilités.
Il y a eu des arrangements, des facilités avec l'EHPAD. De mémoire, ce que je peux dire, c'est que globalement, c'était fait d'avoir élargi, avoir créé à peu près une dizaine de milliers de mètres carrés en plus sur cette tour. C'est revenu à pratiquement avoir un discount d'un bon tiers, moitié de ce qu'on aurait dû payer.
30% moins cher à 50% moins cher.
Oui, en fonction des coûts complets, oui, absolument. C'est pas colossal. Ça se situe en quelques centaines de milliers d'euros. 400, 500, 600, voilà. C'est quelque chose comme ça, je pense. Bon, c'est déjà bien, hein.
C'est déjà pas mal, quand même.
Bien, hein. Oui, tout à fait.
Les rapports établis par la nation, d'une part.
Nicolas Sarkozy.
Et ceux commandités par l'association Aude, d'autre part.
Conseil d'administration de l'EHPAD, 25 juillet 2006.
Ont confirmé la nécessité non seulement d'une rénovation, mais bien d'un renouveau, d'une nouvelle phase de développement de la défense. Ces rapports très étayés ont confirmé la nécessité de définir un nouveau projet confortant la défense dans sa vocation de pôle d'excellence économique. Le diagnostic de la situation actuelle est simple et je crois qu'il est partagé par tout le monde. Il repose d'abord sur le constat d'une réussite exceptionnelle. En 1958, l'État a créé l'EHPAD pour conduire la plus grande opération d'urbanisme du siècle sur un périmètre de 160 hectares. Alors que l'espace qui entourait alors le CNIT, tout juste inauguré, mêlait des activités industrielles et maraîchères, un habitat vétuste marqué par les bidonvilles, nos prédécesseurs ont su faire de la Défense, presque 50 ans après, le premier quartier d'affaires européen. La Défense, ce sont ainsi 1500 sièges sociaux, 3 millions de mètres carrés de bureaux, qui accueillent chaque jour 170 000 salariés. C'est aussi 600 000 mètres carrés de logements, qui accueille 20 000 habitants et 200 000 mètres carrés de commerce. C'est une galaxie d'entreprises entraînées par quelques étoiles, dont certaines sont leaders du CAC 40, et sont présentes de très longue date sur le site.
En juillet 2006, lorsque Nicolas Sarkozy lance le plan de relance de la Défense, il cumule toutes les casquettes localement. Il est président du Conseil général des Hauts-de-Seine, président de l'établissement public d'aménagement de la Défense. Il est ministre de l'Intérieur à l'époque du gouvernement Villepin. Et donc c'est à tous ces titres-là qu'il fait ce plan de relance. Et ça lui tient d'autant plus à cœur qu'il va très vite faire passer une loi qui va être votée en catimini juste avant Noël 2006. Quelques élus vont lever un doigt, les Verts vont dénoncer le sacre du béton, quelques élus socialistes ou communistes, mais enfin, ça va passer comme une lettre à la poste et dans l'indifférence générale, menée de main de maître par Roger Karoutchi, qui est l'homme fort de l'UMP dans les Hauts-de-Seine, le président de l'UMP au niveau de la région Île-de-France et qui est très présent dans les Hauts-de-Seine. Et donc, une loi est votée au Parlement qui va offrir un gros cadeau aux promoteurs, c'est-à-dire que tout ce qui va être les mètres carrés supplémentaires qui vont être issus de la démolition et de la reconstruction, parce que l'idée c'est de jeter à terre les vieilles tours et puis de les rehausser et de les construire plus hautes. Donc tous ces démolitions, reconstructions vont être exonérées de taxes sur les bureaux, donc gros cadeau aux promoteurs. Et puis avec quelques autres dispositions annexes, en gros on fait un gros cadeau pour permettre ce plan de relance, pour qu'il aille vite et que les promoteurs soient satisfaits.
Le quartier de la Défense, c'est 3 millions de mètres carrés de bureaux, 170 000 salariés, et perdu au milieu de ces 170 000 salariés et de ces mètres carrés de bureaux, il y a 20 000 habitants.
Oui, ça c'est quelque chose qui est étonnant lorsqu'on découvre ce territoire, qu'on s'y promène. On se rend compte qu'il y a quelques habitations dans le périmètre de la Défense, avec des gens qui sont un petit peu perdus là. Le soir, tout s'éteint, les salariés courent vers leur métro, leur RER. Tout se vide et il y a quelques lumières qui s'allument, c'est les habitants qui vivent là. Donc il y a une volonté dans le cadre du plan de renouveau de la Défense d'en faire un quartier beaucoup plus chic que ce que ça n'est. Et donc de détruire quelques-uns des petits immeubles d'habitation HLM qui sont là et de construire à la place des immeubles de beaucoup plus haut standing. Alors il y a effectivement ce phénomène qui est en train de se produire. Les populations les plus pauvres vont être écartées de la Défense et ça va devenir un lieu beaucoup plus chic et prestigieux.
Années, toute l'âme du quartier aura disparu, emportée par des gens un peu plus riches, un peu plus blancs, lavés de tout soupçon et convaincus qu'un quartier sympathique est un quartier où les flics roulent dans les rues, en recherchant les ombres des habitants d'avant qu'ils pensaient avoir tous exclus. Placés, regroupés, chassés ou isolés en fonction du loyer, de la couleur de peau, de là où il y a du boulot. Chaque portefeuille correspond à son quartier. Une franche division de la population permettra à ceux dont c'est le rôle de garder l'opinion sous contrôle. Toute l'adresse à grands coups de charter et d'écart de CRS. Et s'il y en a qui restent, ils n'auront qu'à brûler. Place à la spéculation et l'immobilier. Et quand tout ça sera terminé, leurs jolies petites têtes blondes pourront gambader dans la promenade plantée où rien n'arrive jamais.
Alors 20 000 habitants au cœur du quartier de la Défense et qui dont la présence est menacée dans le projet de rénovation et de développement. Actuellement, la Défense, c'est 160 hectares, s'étend sur 160 hectares, mais le projet, c'est 560 hectares supplémentaires et essentiellement sur la commune de Nanterre. Ce qui ne plaît pas vraiment au maire de Nanterre, Patrick Jarry, qui perdra la maîtrise de l'aménagement sur la moitié de son territoire. Pour finir, aujourd'hui, on retrouve nos deux sociologues, Monique Michel Pinson-Charlot, qui nous emmène dans ce quartier populaire, ce qu'il en reste au moins de la Défense.
Michel, je me demande si ça, c'est pas des HLM, justement, qui doivent disparaître aussi, qui appartiennent à la ville de Courbevoie, qu'on appelle les HLM Lorraine.
À
les
notre
HLM.
Droite, il y a un immeuble qui fait que 4 étages. Alors, effectivement, il détonne.
En plein cœur de la Défense. Et en effet, on dit qu'ils sont trop centraux, trop visibles.
On va tenter de rentrer par là.
On voit les tours de la Société Générale. On voit les couleurs rouge et noir de la Société Générale.
Là, à notre droite, on est en train de longer le couloir de l'immeuble.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Le Cadarou ? Le Cadarou ?
Moi, j'habite au-dessus, là.
Vous habitez au-dessus ?
Alors, voilà ce qu'il nous a construit devant le nez.
Une immense tour, ah, vous voyez rien.
Alors, automatiquement, il n'y a plus de soleil, et puis il n'y a plus de ciel, et puis ils vont construire encore une semaine derrière, là, en plus. C'est qu'une question d'argent, tout ça. Vous voyez tout ça ? Ils vont le détruire, puis ils vont construire. Regardez la hauteur de la tour qu'ils vont encore construire, là. C'est une honte de voir ça, il n'y en a que pour les tours. Sans arrêt, construisent des tours.
Là, vous êtes encerclés ?
Pour ça, j'aurais mieux fait de l'abattre, l'immeuble.
Ils attendent peut-être que vous partiez, ou alors...
Non, ils vont le réhabiliter. Pas le rénover, c'est pas pareil. Rénover, ça veut dire qu'il refera les intérieurs, mais là, ils vont le réhabiliter, c'est tout.
Vous habitez ici depuis combien de temps ?
40 ans, presque. Ben, c'est ma compagne qui avait un logement par le 1% patronal.
Et vous imaginez pas quitter ce lieu ?
C'est-à-dire que, comme ma compagne, elle a attrapé la maladie d'Alzheimer, les Toubis m'ont dit, si vous la déplacez, elle n'en a plus pour longtemps, parce qu'elle reconnaissait encore chez elle, tout ça, puis elle connaissait pas mal de monde et tout, vous voyez. Alors, on n'a pas pu partir, automatiquement. Après, je suis resté là. Maintenant, mon âge déménagé. Ouais, j'ai 78 quand même.
On imagine un documentaire ou un film, le petit bonhomme qui est dans sa maison, et puis tout autour, il y a des tours et des tours, et il reste là, tout petit.
De plus en plus.
Voilà, écrasé.
Vous faisiez quoi avant ?
Dessinateur industriel.
J'avais une retraite de combien, si c'est pas indiscret ?
Bah, je vous parle en ancien franc, là, 12 000 francs.
Ceux qui sont en haut des tours dans les conseils d'administration, en un jeton de présence, ils ont 3 ans de votre retraite.
C'est des bandits, tous ces gens-là, on le sait bien. Tous ces gros constructeurs Bouygues, et puis tout ça. Sarkozy, il est la parent d'un de ses fils. Qu'est-ce que vous les foutez avec tout ça ? Non. C'est tous des bandits. Aïe, qu'est-ce que vous voulez faire ?
Il y a une violence terrible de voir son territoire, sa vie, comme ça, bouchée par des tours et des tours. Du point de vue de la logique financière capitaliste, c'est extraordinaire que ces HLM, là, puissent exister, coincés entre toutes ces tours au cœur de la Défense. Surtout que les statistiques sont intéressantes et sont à la faveur du logement social, puisque sur la Défense, il y a 10 200 logements, dont 36% de logements sociaux. Là, on est peut-être témoin de vestiges. Et on sait très bien qui c'est qui va gagner la bagarre. Hein, on sait très bien.
On sait très bien qui va gagner cette bataille, mais auparavant, on voudrait quand même avoir des précisions. L'EHPAD, je le rappelle, c'est un établissement public qui a pour mission l'intérêt national. Aussi, va-t-on rendre visite à Monsieur Philippe Chaix, qui est directeur général de l'EHPAD et qui nous reçoit avec beaucoup d'aménité.
Mon bureau est une bulle suspendue au 12e étage d'une petite, on peut dire ça, tour de la Défense. Donc il y a accroché au mur un certain nombre d'œuvres d'art peintes qui font partie de mes propriétés privées, n'est-ce pas ? On peut dire ça comme ça. Voilà. Évidemment, puisque nous sommes un établissement public de l'État et que nous en sommes fiers, notre président de la République dans la version officielle de sa photo. Et de l'autre côté...
Une autre photo montage. Que moi je regardais, c'est voilà. Un montage de 4 photos.
Qui illustre la visite que le président de la République a faite le 30 juin 2009 à la Défense. Et comme je trouvais que ces photos étaient très chaleureuses, très, très, très bonnes, je les ai fait mettre ici. Le plan de renouveau concerne la Défense elle-même. Ce qu'on appelle dans le langage de tous les jours la poire. parce que le territoire a une forme de poire. Là, le rôle de l'EHPAD est d'encourager, d'inciter, d'accompagner les investisseurs qui possèdent des tours vieillissantes, de les rénover. Ça consiste à les démolir et à en faire une autre à la place, et on reconstruit plus haut encore. Ensuite, pour simplifier, le président de la République l'a repris très clairement dans ses interventions le 30 juin 2009, il préconise que par rapport à la demande exprimée par les entreprises, il y ait un peu plus de mètres carrés dans les années à venir.
J'ai rencontré des habitants des Damiers qui disent, est-ce qu'on peut considérer que c'est une opération d'intérêt national, puisque nous, en tant que personnes qui habitons dans des HLM, on est obligé de changer de lieu.
Je ne sais pas. Moi, je suis un homme libre, et eux aussi.
Vous vendez des droits de construire.
Ça n'a rien à voir. Je suis propriétaire de terrain, je vends des droits à construire. Mais je ne vais pas vous dire si c'est bien ou mal, j'en sais rien. Je ne suis ni professeur de morale, ni professeur de philosophie. On n'est pas là pour ça, ni pour distribuer les bons points, les mauvais points. Ça n'existe pas. Je n'ai pas de commentaires à faire sur les positions de qui que ce soit d'autre que de moi. C'est tout. Et c'est déjà beaucoup.
Hein? Ah bah d'ailleurs, Monsieur Scheck s'en va. Il est parti en courant. Bon, on va y aller, donc.
Ben voilà, ça se finit comme ça pour aujourd'hui, mais on revient demain. C'était un reportage de Pascale Pascariello. Merci à Monique et Michel Pinson-Charlot. Merci à Hélène Constantin, Maya, Robert, Dominique Boré et Jean-Marc Besson. À lire Hélène Constantin et Pierre-Yves Lautrou, 9-2, le clan du président chez Fayard. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur là-bas.org. Ludovic Asselot et Arnaud Caillet étaient à la technique aujourd'hui. Coy Nguyen et Raphaël Moutarde ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée d'Agnès Lebot. Et Catherine Pinto attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Vous l'avez entendu, il est 16h passé de quelques secondes sur France Inter. On se retrouve demain à 15h. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Boin. Salut.
Il n'y aura qu'un vol sur deux demain à Orly, 3 sur 4 à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, selon les prévisions de la Direction générale de l'aviation civile. 4 syndicats ont déposé un préavis de grève qui court jusqu'à samedi prochain. Ils dénoncent le projet de fusion du contrôle aérien avec 5 autres pays européens, l'Allemagne, le Benelux et la Suisse, et un éventuel démantèlement de la JAC. La CFDT demande la suspension du mouvement de grève aux salariés Total. Le fait que le comité central d'entreprise, qui doit statuer sur le sort de la raffinerie de Dunkerque, a été avancé au 8 mars et considéré comme une avancée suffisante par ce syndicat. Avis qui n'est pas partagé néanmoins par la CGT majoritaire dans le groupe. Ce n'est qu'un point parmi nos revendications, précise Christian Vogt, le secrétaire CGT du comité central d'entreprise de la branche raffinage. La grève est dans son 6e jour. Les inquiétudes sur une possible pénurie d'essence grandissent. Même si le gouvernement assure qu'il n'y aura pas de problème d'approvisionnement, il y a quelques minutes, la direction de Total a annoncé que 132 stations-service Elf et Total sur 2000 sont actuellement à court de carburant. Ce matin, le socialiste François Hollande dénonçait le climat détestable qui règne autour de la campagne pour les régionales. Le Parti communiste français compare celle qui est menée en Ile-de-France à, je cite, un concours de boules puantes, loin des préoccupations des franciliens. Allusion aux accusations de l'UMP contre la tête de liste PS dans le Val-d'Oise, Alice Soumaré, comparée à un délinquant. À 3 semaines du premier tour, il est grand temps de revenir à un débat de fond sur l'avenir de l'Ile-de-France, demande Pierre Laurent, la tête de liste du Front de Gauche dans la région. 7000 personnes sont encore infectées chaque année en France par le virus du sida et 2,5 millions dans le monde. Lors d'un point de presse, le directeur de l'ANRS qui fédère la recherche sur la maladie a affirmé que l'agence n'a plus les moyens de poursuivre correctement son travail sur la prévention du sida. Jean-François Delfraissy espère bénéficier du grand emprunt. Des discussions sont en cours avec les autorités. Les autorités portugaises décrètent un deuil national de 3 jours à Madère. Elles vont également demander une aide au Fonds de solidarité de l'Union européenne après le déluge qui a dévasté cette région autonome, fait 42 morts et des dizaines de blessés ce week-end. Un bilan toujours provisoire. L'épilogue dans le bras de fer engagé entre la Libye et la Suisse. L'homme d'affaires suisse Max Goldi s'est finalement livré ce midi aux autorités de Tripoli. Il a donc quitté l'ambassade où il était réfugié et purgera sa peine de prison de 4 mois pour séjour illégal dans le pays. L'autre homme d'affaires retenu en Libye depuis juillet 2008 a pu quitter le pays. Il avait été blanchi par la justice. Les deux hommes avaient été arrêtés en représailles à cette brève interpellation à Genève de l'un des fils du colonel Muammar Kadhafi, Hannibal, ainsi que de son épouse.
Service public, Olivia Gesbert.
Peut-on aujourd'hui boire de l'eau du robinet en toute sérénité ? Les professionnels de l'eau nous disent-ils toute la vérité ? Réponse demain dans Service public. Vos questions sur franceinter.com.
Service public, pour mieux décrypter tous les pièges de la conso, du lundi au vendredi à 10h.
France Inter et le théâtre de la commune d'Aubervilliers présentent du 27 février au 2 avril les fausses confidences de Marivaux, mises en scène par Didier Bezaz, avec notamment Pierre Arditi et Anouk Grimbert.
De honte ? Quelle preuve as-tu de sa folie ?
Quelle preuve ? Il y a 6 mois qu'il est tombé fou. Il y a 6 mois qu'il extravague d'amour.
Retrouvez Didier Bezaz le 8 mars à 17h dans Nonobstant d'Yves Calvi.
France Inter. France Inter.
La différence.
Il est 16h04, c'est l'heure de retrouver Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Rossini, Rossini, on l'entend tous les jours dans cette émission, au début, puisque cette ouverture de Guillaume Tell, c'est notre sigle, la charge de la cavalerie, et l'opéra Guillaume Tell qui a été donné à Paris, et qui a été aussi la fin de la carrière de Rossini. C'est quelque chose qui n'a pas été entièrement compris, une chose qui a été comprise à moitié seulement au début. Il y avait des bons moments, disaient les critiques, bien sûr, il y avait des beaux passages, un peu de suspense, quand la pomme est posée sur la tête du fils et que Guillaume doit braquer son arbalète, enfin tout ça, mais Rossini avait senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus, parce que son art, qui était un art très chantant, le bel canto, un art, on peut dire, ornementé, était en train d'être supplanté par d'autres compositeurs, dont Giuseppe Verdi, Verdi le vériste, mais on va y arriver tout de suite. L'ouverture de Rossini, il avait la tendance fâcheuse pour les critiques de prendre tout en rigolant. Rossini, le cygne de Pesaro, comme on l'appelait, sa ville de naissance, c'est-à-dire un personnage jouissant, qui aimait les bons vins, la bonne nourriture. Le drame paraissait très loin de lui en général. C'est peut-être ce qui passait de mode finalement, ce qui l'a poussé à abandonner sa carrière et son destin prématurément. Alors là, il se moque ouvertement de tout le monde. Un impresario lui a donné un mauvais livret. Il signe en bruschino, donc il va vraiment se payer la tête non seulement de l'impresario mais du public en faisant quelque chose d'un peu grimaçant. Et les musiciens sont priés de taper sur leur pupitre de temps en temps avec leur archer, et le but était atteint. On s'est moqué de moi, je me venge.